En cet anniversaire de l'adoration perpétuelle, j'ai essayé de réfléchir en quoi la fête du Christ roi pouvait éclairer notre regard sur l'Eucharistie. Alors, deux petits points. La première chose, c'est que cette royauté dans l'Évangile s'exprime, Jésus l'exprime, pendant sa passion. C'est assez étonnant parce que à plusieurs reprises, durant sa vie publique, on veut le faire roi, on veut mettre la main dessus et on a bien compris que c'était lui, l'homme de la situation, mais il va s'échapper. À la transfiguration, il montre, il dévoile sa beauté, cette royauté, cette gloire, et pareil, il demande qu'on ne dise rien. Et au moment où il n'apparaît pas comme un roi extérieurement, c'est là où il dit « mais je suis roi, tu le dis ». C'est-à-dire qu'il veut que cette royauté soit dévoilée dans l'humilité. Je ne veux pas que vous trompiez, ma royauté, elle s'exerce dans l'humilité, mon amour se dévoile dans la pauvreté. Et je me disais, en fait, l'Eucharistie, c'est à la fois, vous voyez, cette adoration, et quand nous prenons du temps pour nous mettre devant le Seigneur, nous sommes aussi, comme dit l'Apocalypse, devant lui. Notre cœur bouge, se laisse toucher, mais il se laisse toucher par la pauvreté. Face à l'Eucharistie, il y a ceux qui disent, il n'y a rien à voir, passons et... allons ailleurs, où il y a ceux qui disent « mais en fait, quelle pauvreté, quelle bonté !» Face à c'est le mystère de Noël, c'est la même chose. Hein. Le Christ se dévoile dans la crèche, donc il n'est pas roi, donc il n'y a rien à voir, donc circulons. Ou au contraire, cette manifestation, elle est tellement humble qu'elle me remue. Et donc, vous voyez, peut-être qu'on peut demander ça aujourd'hui, d'être saisi par l'humilité, la bonté de Dieu qui se dévoile. Et je me disais, un premier point peut-être très concret, nous avons nous aussi à être missionnaires dans la pauvreté. Vous voyez, je pense qu'une des étapes, en tout cas c'est celle que le diocèse veut nous propose cette année avec Saint Vincent Ferrier. Tout le doyenné de Vannes va être en mission pendant l'Avent. Donc c'est une mission qu'on a préparée avec tous les prêtres, voilà, du doyenné, les équipes pastorales. Et donc on va proposer tous les samedis de l'Avent de rencontrer les gens, soit dans des visites à domicile, soit devant la cathédrale, soit devant les boutiques de nos quartiers. Bon, pourquoi ? Parce que si le Christ vient dans cette église, les gens sont pas au courant parce qu'ils font leurs courses, bon. Donc faut que nous qui sommes au courant allons vers eux. Comment on va y aller? Comme le Christ, dans la pauvreté. Les gens ils veulent pas des tracts, je sais pas quoi, des invitations, rien du tout. Les gens ils veulent nous avoir, nous, qu'on leur dise, écoutez, vous attendez quelque chose, parce que pendant l'Avent tout le monde attend quelque chose. Le Père Noël, la fête de la lumière, un cadeau. On attend tous, ben en fait, ce que vous attendez au profond de votre cœur, c'est le Christ, c'est le seul qui peut être roi de l'univers et roi de votre cœur. C'est le seul qui peut vous combler. Donc on va, vous voyez, vivre ce, je me dis, on va passer de la pauvreté de l'adoration à la pauvreté de la mission. Quand on évangélise, on est pauvre. Jésus envoie les disciples deux par deux, sans rien, prenez rien. Pas de tunique de rechange, un bâton pour dire que vous êtes pèlerin, que vous êtes voyageur, mais c'est tout. Et en osant cette mission, on va découvrir ce royaume, comme il est dit, ce royaume qui prend de la place, le Christ enfin qui prend de la place en ce monde. La deuxième chose où j'ai fait tilt entre l'adoration et puis la fête du Christ roi, c'est cette première lecture de Daniel que j'explique succinctement. Hein. Voici venant sur les nuées du ciel comme un fils d'homme. Ça veut dire que c'est un homme, mais pas tout à fait, c'est un peu plus. Il s'avança jusqu'à l'ancien, c'est une image de Dieu, le vieillard. il fut conduit en sa présence, c'est-à-dire que cet homme accède au trône de Dieu, et à lui fut conféré empire, honneur et royaume. À ce fils d'homme, et tous les peuples, nations et langues le servirent. C'est exactement la promesse que Satan faisait à Jésus dans les tentations au désert. Tu vas avoir tous les royaumes de la terre, tous les empires. Est-ce que tu veux bien m'adorer? Et Jésus n'a pas souhaité, mais pourtant la promesse était là dans l'Ancien Testament. Et là, ce fils d'homme reçoit ce pouvoir, ces royaumes. Et on nous dit son empire est un empire éternel. Donc on voit bien que ce n'est pas un royaume terrestre, c'est autre chose, un empire éternel. En fait, il partage, ce fils d'homme, la condition de Dieu. Bon. Alors là, on s'arrête au verset 14. Là. Et j'ai regardé dans ma Bible un petit peu plus bas. C'est qui ce fils d'homme? C'est qui, à qui sont confiés ces royaumes? Et je lis, ceux qui recevront le royaume sont les saints du Très-Haut, et ils posséderont le royaume pour l'éternité, et d'éternité en éternité. En fait, ce fils d'homme, il représente tout un peuple, il nous représente, c'est ce peuple de Dieu qui vient vers le Seigneur et à qui sont confiés tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire que cet homme, c'est à la fois le Messie, le Christ, et en même temps, il porte en lui toute l'Église, tout son corps et toute l'humanité. Et je trouve que c'est très fort parce que l'adoration eucharistique, c'est la même chose. La communion eucharistique, c'est la même chose. Vous communiez au corps du Christ, au Christ-tête, à ce Fils d'homme. Et en fait, en communiant au Christ, vous communiez à l'Église tout entière, au sein de la terre et au sein du ciel. Regardez ce que dit le catéchisme au numéro 1689. Il dit ceci, lorsque la célébration a lieu dans l'Église, l'Église exprime sa communion efficace avec le défunt. Quand nous avons perdu quelqu'un, la question c'est toujours, mais comment je vais le rencontrer? Où est-il? Comment lui parler? Comment être en communion avec lui? Eh bien, quand tu perds quelqu'un, dans la communion eucharistique, l'Église exprime sa communion avec le défunt. C'est par l'Eucharistie ainsi célébrée que la communauté des fidèles apprend à vivre en communion avec celui qui s'est endormi dans le Seigneur, en communion au corps du Christ dont il est membre vivant et en priant ensuite pour lui et avec lui. Dès que, vous voyez, je communie, en fait, je suis en communion avec les saints du ciel, avec mes frères défunts, avec, voyez, avec l'Église, avec le corps du Christ. On ne peut pas séparer la tête du corps. Donc, vous voyez, de même que ce fils d'homme qui est un personnage, en fait, a en lui, eh bien, toute l'Église, tout Israël, eh bien, de la même manière, dès que je communie au Christ, hostie, je suis en communion avec mes frères défunts. Ce qui veut dire que, vous voyez, la conscience qu'on a à avoir maintenant, c'est qu'on ne peut pas séparer le Christ de l'Église. On ne peut pas séparer notre adoration eucharistique que nous vivons de notre amour très concret les uns des autres. Et ce n'est pas pour rien, vous voyez, que nous avons le geste de baiser de paix avant de communier, pour dire, mais écoute, s'il te plaît, mets-toi en communion avec tes frères parce que tu vas communier au sein du ciel, au Christ total. Et pourquoi tu communies au Christ? Pour rejoindre différemment tes frères. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Alors, du coup, j'en arrive à une deuxième petite activité concrète après l'évangélisation dans la pauvreté. C'est la fraternité qu'on a à vivre. Si, en fait, je ne peux pas séparer le Christ de mes frères, eh bien, il faut que ça soit concret, il ne faut pas que ce soit que des mots. Et donc, on vous propose, on aura une petite annonce à la fin, de vivre cela concrètement par des fraternités. C'est-à-dire que, en fait, et je pense que c'est une nouvelle étape que doit vivre la paroisse, on se rend bien compte qu'on ne peut pas être en communion dans l'Église avec 300 personnes. C'est pas vrai. Je ne peux pas dire que je suis en communion avec 300 personnes. On est en communion avec quelques personnes. Et quand je relis les Actes des apôtres, je vois bien qu'au début de l'Église, les apôtres vont se réunir, en fait, très rapidement en maison. Pourquoi ? Parce que le temple n'est plus tout à fait le lieu adapté et que, en fait, la maison permet la rencontre. Et donc, en fait, deux petites fraternités en petites fraternités qui peuvent changer d'une année sur l'autre, en fait, ont fini par entrer réellement en communion les uns avec les autres. Donc, nous qui embrassons, voyez, de nos lèvres le Seigneur quand nous communions, eh bien, j'ai envie de dire, aimons aussi, non pas simplement la tête, mais tout le corps du Christ, et aimons les membres. Ayons ce désir que cette royauté du Christ, eh bien, prenne toute la place, y compris dans notre Église, où le Seigneur sera célébré, vécu au milieu de nous, à travers ces petites fraternités. Donc, pour notre semaine, on va peut-être réfléchir. Hein, Seigneur, il y a 3 samedis qui sont proposés. Il y aura des petites cartes qui vont être données. Montre-moi, Seigneur, comment, qu'est-ce que je dois investir comme temps, comment raisonnablement, hein, je peux annoncer ton nom. Montre-moi, voilà, qu'est-ce que je dois vivre. Et puis, Seigneur, je t'ai peut-être rencontré jusqu'à maintenant. Ça fait quand même 10 ans qu'il y a l'adoration, je t'ai rencontré dans l'adoration eucharistique. J'ai pas encore bien perçu que tu étais celui qui me parlait à travers des frères. J'ai pas bien perçu. Alors je te demande, peut-être de me donner la liberté d'oser, cette vie fraternelle pour faire l'expérience que tu es aussi présent dans ton corps, dans l'Église.